RCF. Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Anne Kerléo.
Et on parle du train ce matin dans Je pense donc j'agis. On le fait sur fond de la probable disparition de Railcoop. Le tribunal de commerce de Cahors devrait prononcer le 29 avril la liquidation judiciaire de la première coopérative ferroviaire en France, qui avait pour projet de relancer la liaison Lyon-Bordeaux sans passer par Paris, une ligne abandonnée il y a à peu près 10 ans par la SNCF. Elle avait aussi d'autres projets, notamment une ligne Toulouse-Rennes. Une audience avait donc lieu au tribunal de commerce de Cahors hier. La décision a été mise en délibéré, mais tout porte à croire que Railcoop sera liquidée. La coopérative avait indiqué dès le 27 mars que c'était désormais l'issue inévitable de l'aventure. Railcoop avait été placé en redressement judiciaire en octobre 2023. Et déjà avant cette date, celles et ceux qui s'intéressaient au projet savaient que c'était compliqué puisque le lancement de la ligne Bordeaux-Lyon avait été reporté à plusieurs reprises. Alors on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi cette utopie ferroviaire s'est soldée ou va se solder par un échec? Mais on ne va pas en rester là. On va se demander ce que cet événement nous dit de la place du train en France et de son avenir et quels enseignements on peut en tirer. Quel héritage nous laisse Railcoop. Et puis en seconde partie d'émission à partir de 10h, on continuera à parler transport puisqu'on vous propose la rediffusion d'une émission de Melchior Gormand sur le covoiturage du quotidien. Mais tout de suite, on revient donc sur l'aventure Railcoop. On essaye de décrypter ce que cette aventure nous dit du train et de son avenir. Et comme d'habitude dans cette émission, vous pouvez contribuer aux échanges. Dites-nous si le projet Railcoop vous a intéressé. Peut-être même détenez-vous des parts dans la coopérative. Si c'est le cas, venez nous expliquer pourquoi vous avez contribué au financement de ce projet et comment vous vivez sa fin. Et puis de manière plus générale, quel est votre regard sur l'avenir du train, sa place dans la transformation écologique, votre conception du rôle des différents acteurs en la matière, l'État, les collectivités, la SNCF, les entreprises privées et les acteurs associatifs et citoyens. Pour participer, vous laissez vos messages par mail à l'adresse direct@rcf et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis, et vous venez aussi à l'antenne au 04 72 38 20 23.
Je pense donc j'agis, 04 72 38 20 23.
Et trois intervenants et intervenantes sont avec nous jusqu'à 9h pour nous apporter leur éclairage, au premier rang desquels Nicolas Debézieux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur général de Railcoop depuis les débuts de l'aventure, vous êtes avec nous depuis Figeac où se trouve le siège de Railcoop, c'est dans le Lot, alors c'est peut-être pas un hasard, on vous demandera ça tout à l'heure. Avec nous aussi Patricia Pérennes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, spécialiste du transport ferroviaire, en particulier de la question de l'ouverture à la concurrence, sujet auquel vous avez consacré votre thèse. Vous avez travaillé à la SNCF avant de rejoindre le cabinet de conseil en mobilité Transmission. Et puis avec nous aussi Céline Boivin, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez pour le groupe Aegis, qui est une entreprise d'ingénierie présente dans les secteurs de l'aménagement, des infrastructures, de transport, d'eau et dans le secteur de l'environnement. Et vous avez en charge particulièrement le segment rail de cette société. Merci à tous les trois de prendre le temps de participer à cette émission. Alors, Nicolas Debézieux, on va commencer évidemment avec vous pour revenir sur ce qui s'est passé hier au tribunal de commerce de Cahors. Pour l'instant, on n'est pas fixé sur l'avenir de Railcoop.
Non, après, il y a quand même quelque chose qui se prépare depuis un certain temps. On avait pour revenir sur l'histoire récente, on avait effectivement réussi à stabiliser la situation de l'entreprise, mais on a perdu un contentieux avec un fournisseur qui aujourd'hui précipite un peu la fin de l'aventure. Néanmoins, le tribunal de commerce ne s'est pas prononcé hier, il se prononcera le 29, mais on... Il y a peu de chance, effectivement. Voilà, il n'y a pas beaucoup de suspense, en fait, quelque part.
Alors, avant d'entrer dans le détail, on va prendre le temps de raconter comment que cette aventure a commencé, en quoi elle a consisté, mais peut-être chacun, et à commencer par vous, Nicolas Debézieux, votre état d'esprit ce matin face à la fin annoncée de cette aventure. On l'imagine que forcément vous ne le vivez pas très bien, mais qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire?
Alors, il y a quand même un sentiment de fierté de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a été quand même très très loin, on a été, je pense, le plus loin possible pour pouvoir défendre cette idée qu'un modèle alternatif au ferroviaire était possible. Je rappelle que l'idée de base de Railcoop, c'était de sortir de ce modèle du tout TGV qui est une situation très particulière en France, hein, il faut le rappeler, les autres pays européens n'ont pas du tout le même fonctionnement. Et donc de sortir de cette vision, d'avoir une vision beaucoup plus inclusive, d'être au plus proche des territoires, et c'était tout le rôle de la SIC, hein, d'associer les collectivités locales qui sont regardées de façon un peu distante par les acteurs du ferroviaire, les communes, les communautés de communes, et qui pourtant sont essentielles en fait pour faire vivre l'offre ferroviaire sur les territoires. Donc c'était d'associer tous ces acteurs et donc un sentiment de fierté parce qu'on a réussi effectivement à créer cette communauté, on a réussi à être entreprise ferroviaire, à faire rouler les trains, on a eu la licence, le certificat de sécurité, donc on a passé un certain nombre d'étapes. Et en même temps un sentiment de frustration, c'est-à-dire que on n'a pas été au bout. Et donc il manquait, je pense, pas grand-chose, puisque il y avait quand même un certain nombre de signaux qu'on avait validés. Mais on n'a pas réussi, et donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté un peu ouais, de frustration sur le fait qu'on n'a pas pu achever en fait cet engagement.
Céline Boivin, vous deux phrases hein, pour l'instant, après on entrera dans les détails, mais que vous inspire la fin annoncée de l'aventure Rykop?
Je pense que ça illustre assez bien les difficultés de l'ouverture à la concurrence du monde ferroviaire sur l'exploitation des lignes, quelles qu'elles soient, TGV, grande vitesse, intercité ou même TER. Et puis plus largement, ça nous parle aussi du modèle économique de la société et des modèles d'entreprise différents qui ont aujourd'hui toute leur place, même si ce n'est pas l'objet de l'émission.
Mais on y reviendra peut-être quand même. À votre tour, Patricia Perennes, en deux phrases, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire pour commencer cette émission sur la fin annoncée de Rykop?
Alors moi j'ai une certaine tristesse et en même temps je suis pas étonnée, donc une certaine tristesse parce que moi j'aurais voulu que ce projet fonctionne avec le cœur. J'ai une action hein, pour vous le dire, j'ai toujours pensé que ce projet ne fonctionnerait pas parce que ça c'était pas mon cœur mais mon cerveau d'experte. Voilà, ou comme ça vient d'être dit, il y a des difficultés économiques qui étaient prévisibles et malheureusement voilà, ça c'est ce qui s'est révélé. Donc voilà, partagé entre une certaine tristesse et une absence d'étonnement.
Alors, bah, je vous propose qu'on revienne sur ce qu'a été Rykop. Nicolas de Bézieux, ça a commencé comment? Et vous nous avez dit déjà un peu hein, ce que vous souhaitiez apporter de différent, mais comment est née l'idée en fait? C'était qui et avec quel projet au début?
Alors, l'idée a émergé en 2018, en réalité. Il faut avoir à l'esprit qu'en 2018, il y a eu un rapport, le rapport Spinetta sur l'avenir du ferroviaire. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une vision du ferroviaire en France qui est très singulière. Hein. C'est globalement, on estime qu'en dehors du TGV, ça sert à rien de faire du ferroviaire. Et je pourrais y revenir parce qu'il y a tout un narratif là derrière, tout un imaginaire qui a été construit sur le fait que le réseau classique ne sert à rien. Et du coup, en 2018, il y a eu ce rapport Spinetta qui a indiqué que globalement, ben, toutes les lignes qui étaient les moins fréquentées, il fallait les supprimer. Et on était un petit collectif citoyen en se disant, mais c'est complètement aberrant, parce que nous, on estime que le ferroviaire est une clé en fait de la transition écologique. C'est un mode de transport qui est beaucoup plus efficace du point de vue énergétique que la route. Il y a aussi des défauts, c'est-à-dire qu'il ne va pas partout forcément, mais c'est aussi un mode de transport qui est moins consommateur d'espace. Donc il y a plein d'avantages en fait au ferroviaire. Et donc on s'est dit, en même temps en 2018, il y avait cette ouverture du marché, et on s'est dit, tentons l'ouverture du marché, essayons de proposer autre chose. Et essayons de le proposer de façon différente, à travers un modèle économique différent, qui est un modèle de société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire essayons de fédérer les acteurs qui ont un intérêt effectivement à ce que le ferroviaire se développe, soit parce que ils en ont besoin, hein. Je pense notamment à des territoires comme la Creuse, comme l'Allier, que ce soit les collectivités ou les habitants qui ont aujourd'hui pas d'alternative à la voiture et qui ont besoin d'avoir une alternative à la voiture, soit simplement des gens qui ont envie effectivement de choisir le train parce qu'ils trouvent que c'est plus confortable, parce que enfin pour des tas de raisons qui leur sont propres. Et donc en 2018, effectivement, on est parti de cette idée. On a été les premiers, hein. Je rappelle qu'on était les premiers à se lancer, la première entreprise indépendante effectivement à se lancer. Alors il y a eu des tentatives aussi, je pense à Flixtrain qui a essayé de rentrer sur le marché mais qui s'est retiré très rapidement après avoir discuté avec SNCF Réseau sur l'accès au réseau. Donc voilà, nous on a initié cette démarche. Effectivement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Alors après, j'entends ce que dit Patricia sur le fait que on anticipait, on savait, beaucoup d'experts nous disaient, mais on savait que vous alliez vous planter. Pour autant, nous, on l'a fait. Et on l'a fait, on a effectivement franchi des étapes sur la question du matériel roulant, sur la... voilà, il y a énormément d'étapes. Bon, après,
mais
je pense que c'est toujours facile a posteriori de dire que on aurait fait autrement si on avait été à votre place, ben vous l'avez pas été à notre place. Voilà.
Mais justement, Patricia Perenès, quand même, on voudrait savoir pourquoi dites-vous que dès le départ, malheureusement, bien qu'avec le cœur vous auriez aimé y croire, ça vous paraissait pas possible en fait. Pour quelle raison?
Alors, déjà, pour compléter un peu ce qui vient d'être dit, moi, je pense pas qu'à votre place, j'aurais fait mieux. Je pense qu'à votre place, je me serais planté aussi. C'est d'ailleurs pour ça que je lance pas d'entreprise
pas
ferroviaire aujourd'hui. Parce qu'on a des vrais soucis. Les deux soucis majoritaires auxquels a été confronté Rycop, c'est un, l'accès au matériel roulant, acheter des trains. Très concrètement, vous pouvez pas aller chez le garagiste et acheter un train. C'est quelque chose qui n'est pas possible en France et même plus généralement dans le monde et en Europe. Et puis, la deuxième difficulté, c'est l'accès au réseau ferroviaire. Parce que, évidemment, quand vous prenez un train, vous arrivez pas, c'est pas comme la route, boum, vous pointez le matin et c'est parti. Il faut réserver ce qu'on appelle des sillons, c'est-à-dire des droits de passage, plusieurs années en avance. Voilà, il y a tout un processus qui est assez complexe et à un acteur qui est complètement externe, c'est très difficile d'entrer dans ce système-là et je pense que c'est une difficulté auquel Rycop a été confronté. Bon, et pour finir, il faut couvrir l'ensemble des coûts et quand c'est un modèle comme Rycop qui ne souhaite pas obtenir de financement public, en fait, c'est difficile de boucler le budget et voilà, SNCF perdait beaucoup d'argent sur cette ligne qui était compensée par des subventions de l'État. Voilà, donc on était un peu dubitatif, personne qui connaissait un peu le secteur, en se disant bon, SNCF perdait quand même pas mal d'argent sur cette ligne. Je veux bien qu'ils puissent ne pas être efficaces tout le temps et qu'on puisse gagner des choses, mais de là à leur expliquer leur métier, bon, c'est compliqué. Franchement, c'était une ligne qui était compliquée techniquement en plus. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, l'accès au matériel roulant, les sillons et cette ligne-là en particulier, qui a un réseau qui est un peu ancien et du coup qui pose des problèmes.
Céline Boivin, pour vous aussi, c'était un peu chronique d'une mort annoncée ou de votre point de vue, ça aurait pu marcher, Rycop?
Comme disait Nicolas, c'est toujours difficile de dire a posteriori ce qui aurait pu ou dû se passer différemment. C'est sûr qu'on a des difficultés pour rentrer sur l'environnement ferroviaire, en France en particulier. Patricia a parlé des trois points qui sont, je pense, les points les plus durs, c'est-à-dire le matériel roulant, la connaissance du réseau ferroviaire et de comment est-ce qu'on fait pour obtenir des circulations à des horaires adéquats qui ne coûtent pas trop cher pour ensuite avoir des personnes dans les centres d'opération, les aiguilleurs, par exemple, aux horaires où on en a besoin. Donc, on savait que, enfin voilà, cette aventure rencontrerait forcément des bâtons dans les roues et de grandes difficultés. Et c'est une bonne chose que certains s'y soient collés et d'autres attendent derrière sur d'autres modèles aussi, sur l'ouverture à la concurrence.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que le modèle de la SIC tel qu'il était ne peut pas fonctionner sur le ferroviaire de votre point de vue?
Alors. Non, c'est pas ça. C'est juste que être un nouvel entrant dans le monde ferroviaire, qui que ce soit, c'est très difficile. Et comme disait Patricia, c'est encore plus difficile sur des lignes qui sont un peu malades de manière chronique, comme peut l'être la Lyon-Bordeaux, et sur des lignes où on n'a pas forcément énormément de voyageurs.
Est-ce que ça veut dire, Nicolas de Bézieux, que l'échec de Rycop, ça peut être aussi une manière d'interpeller l'État sur un modèle où on s'aperçoit que finalement, il est le seul à pouvoir aller?
Alors, je pense pas qu'il soit le seul à pouvoir y aller. Il faut avoir à l'esprit que globalement, l'appréhension du marché ferroviaire est assez binaire. C'est-à-dire que la vision de l'État, d'ailleurs d'un certain nombre de collectivité aussi, est assez binaire. C'est-à-dire de dire, d'un côté, soit on a des lignes qui sont rentables et donc on n'intervient pas du tout. Donc c'est le marché qui se débrouille. Ça, c'est sur la grande vitesse, hein, Trenitalia, ou Renfe, là, qui sont lancés. Soit on est dans du modèle subventionné où on subventionne l'exploitation en totalité. En fait, nous, ce qu'on a essayé de défendre depuis plusieurs années, c'est que c'est un peu plus complexe que ça. Je prends la question de l'accès au réseau. Par exemple, le fait d'avoir des sillons de circulation. Nous, on a travaillé avec SNCF Réseau et on sait qu'on peut avoir des sillons de circulation pour faire Bordeaux-Lyon. D'année en année, on a travaillé avec eux et on sait qu'on peut faire Bordeaux-Lyon de bout en bout via le réseau. La difficulté, ce n'était pas tant l'accès au réseau, c'était la fiabilité et la prévisibilité de l'accès au réseau. Je m'explique. Quand on commande des sillons, on a une vision annuelle. Donc SNCF Réseau était en capacité de nous dire « Je sais pour 2025 que vous allez avoir tel sillon de circulation pour 2024, pour 2023. » Mais ils n'étaient pas en capacité de nous dire « Mais pour 2026, vous aurez la même chose. » Donc, la difficulté, c'est quand vous devez financer un projet qui est de plusieurs dizaines de millions d'euros, hein, on parle d'un montant supérieur à 40 millions d'euros, que vous allez voir des banques et que vous leur dites bah, « Écoutez, moi, a priori, je sais que je vais pouvoir circuler en 2025, mais 2026, 2027, 2028, je ne le sais pas. » C'est compliqué. Et donc là, c'est typiquement un sujet que nous, on a porté depuis plusieurs années auprès d'SNCF Réseau. Il y a eu des évolutions. En 2023, SNCF Réseau a mis en place des accords cadres. Certaines entreprises, je pense à une entreprise qui devrait se lancer là, qui s'appelle Kevin Speed, y a eu accès sur la grande vitesse. Nous, on n'a pas réussi encore à l'avoir sur la vitesse classique. Mais on sent que cette question de prévisibilité, de vision donnée aux acteurs évolue. Il y a eu un rapport du préfet Philizot là-dessus, qui a notamment demandé à ce qu'il y ait une vision pluriannuelle. Voilà, typiquement, c'est ce genre d'action. Sur la question du matériel roulant, par exemple, la question du matériel roulant, nous, on a trouvé du matériel roulant. Le sujet, c'est la question du financement du matériel roulant. Et aujourd'hui, il existe des mécanismes de financement du matériel roulant. Il y a un mécanisme européen qui s'appelle Eurofima, qui permettrait de financer du matériel roulant garanti par la puissance publique. L'État, aujourd'hui, n'a pas souhaité ouvrir ce mécanisme à d'autres acteurs que la SNCF. Donc, je pense que la problématique n'est pas vraiment une problématique technique, en fait. C'est une problématique de volonté d'un certain nombre d'acteurs de s'inscrire, effectivement, dans une ouverture du marché, dans l'accompagnement, en fait, d'autres offres.
Allez, on parle de RICOP ce matin, la chronique d'une mort maintenant annoncée, mais en tout cas, qui peut peut-être nous apprendre des choses. On poursuit dans un instant.
Je pense, donc j'agis. Anne Kerléo sur RCF.
On parle donc de RICOP ce matin, dont la liquidation judiciaire devrait être prononcée le 29 avril. On essaie de comprendre les raisons de l'échec et surtout d'en tirer les enseignements pour l'avenir du train. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour nous apporter votre point de vue. Vous pouvez aussi nous écrire à direct@rcf.fr et sur le groupe Facebook « Je pense donc j'agis ». Alors ce qui a précipité la chute de RICOP, c'est une décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 21 mars dernier qui a donné raison à la société qui stockait les rames de la coopérative qui réclamait 800 000 euros de frais de garage à RICOP. Alors, est-ce que, Nicolas de Béziot, vraiment d'un mot, puis après on va donner la parole à nos deux autres intervenantes, est-ce que sans cette décision-là, l'aventure aurait pu se poursuivre et est-ce que la ligne Bordeaux-Lyon aurait pu ouvrir ou est-ce que de toute façon, ça n'aurait pas fonctionné?
Alors, il restait encore un certain nombre d'étapes à franchir, hein. Clairement, comme je l'ai dit, cette décision est une décision qui précipite les choses. Si elle nous avait été favorable, on aurait été effectivement sur une situation de stabilisation de l'entreprise. Je rappelle qu'on avait eu un fonds d'investissement qui nous avait fait une lettre d'intention en août. On a eu un deuxième fonds qui nous a fait une lettre d'intention en février. Donc on voyait bien que le nouveau schéma de financement qu'on était en train de mettre en place, il avançait. Mais il n'était pas terminé. Donc il faut reconnaître que effectivement cette décision, si elle nous avait été favorable, la route n'était pas complètement dégagée encore pour y parvenir. Il y avait encore un certain nombre d'étapes, mais on se réinscrivait effectivement dans une logique de rebond. Et voilà. Bon, après, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de cette décision parce qu'en fait c'est pas le fondamentalement, c'est un ensemble en fait qui a conduit à la situation actuelle.
Céline Boivin, ce qu'on entend petit à petit en creux, c'est quand même que pour des non-initiés hein, qui découvrent que le train, c'est un moyen de transport qui coûte très cher, l'infrastructure coûte très cher.
Oui, en effet, et quand on est sur une ligne qui traverse la France, on a une ligne qui va avoir des pentes, des ouvrages qui coûtent encore plus cher à maintenir et à entretenir. Et donc, parmi les obstacles et les difficultés sur les circulations qu'on peut avoir, il y a justement ces créneaux de maintenance et de travaux lourds qui sont à engager de façon régulière sur les lignes pour garantir la sécurité aussi des voyageurs.
Alors ça, c'est pour les lignes. Patricia Pérennes, le matériel roulant lui-même aussi coûte très cher.
Oui, alors si on parle de rames qui seraient des rames neuves, des rames pas grande vitesse, hein, on est aux alentours presque de 10 millions par rame. C'est important, je trouve, de donner ce chiffre. Raikop, mais là Nicolas pourra confirmer, il devait être à 8 ou 9 millions. Donc voilà, pas de capacité d'acheter même ne serait-ce qu'une seule rame neuve avec le capital collecté donc par les différents contributeurs. Donc ça demande obligatoirement de l'argent privé, parce que si on veut avoir un service, on peut pas avoir une rame ou deux rames, il faut en avoir au moins 5-6 voire plutôt une petite dizaine. Donc on en arrive à des montants qui sont tout de suite la centaine de millions d'euros, et donc on change, enfin on voit bien qu'on peut pas réunir des sommes pareilles à coût de 100 euros, et donc il faut aller voir soit des fonds, ce qui a été évoqué, soit des banques. Voilà, et c'est là que ça a coincé, parce que c'est sûr que le modèle coopératif avec finalement pas de voix au chapitre particulière pour des investisseurs privés, voilà, poser problème. Mais oui, on est montant, on est à plusieurs centaines de millions, et les opérateurs qui sont entrés en France, donc Nicolas les a cités tout à l'heure, donc c'est Trenitalia qui est l'opérateur, l'équivalent de la SNCF en Italie, et la RENFE qui est la même chose en Espagne. Voilà, il n'y a pas de chiffre parce qu'évidemment c'est privé, mais on sait que c'est environ un demi-milliard qu'a mis Trenitalia sur la table, entre le matériel roulant, l'information des conducteurs, les questions de signalisation, sécurité. Donc on est des montants qui sont astronomiques. C'est pas juste développer une petite appli, c'est vraiment mettre beaucoup d'argent sur la table, et c'est ça la difficulté fondamentale du secteur ferroviaire.
Vous confirmez, Nicolas de Bézieux, 8 millions, je crois que c'est 8 millions et demi d'euros levés auprès de 14 000 sociétaires, 36 collectivités.
Oui, c'est ça. On est un peu plus, hein, c'est environ 10 millions d'euros, puisqu'il y a les personnes qui sont devenues sociétaires, puis on a levé des titres participatifs également, donc on est plutôt sur une enveloppe de 10 millions d'euros. Donc voilà, et auprès de effectivement quasiment 15 000 sociétaires, hein, une trentaine de collectivités dans 45 pays. Parce que je souligne quand même que le projet RAICOP a intéressé au-delà de la France, au-delà des acteurs qui sont intéressés par le Bordeaux-Lyon. Par exemple, il y a l'agence des mobilités de la Wallonie, de la région Wallonne, qui est sociétaire de RAICOP, parce que ce modèle-là est un modèle assez innovant. Alors, si vous voulez, on pourra refaire un débat sur la question de l'économie sociale et solidaire et du modèle de SIC, parce qu'on n'est pas les seuls en fait à agir dans ce modèle-là. Je pense qu'il y en a d'autres. En ce moment, on pense, j'entendais ce matin la Belle Emmaüs qui lançait une campagne qui fait partie du même groupement que nous, les Licornes, hein, qui sont un groupement de sociétés coopératives qui ont la volonté de proposer de nouveaux modèles économiques. Il y a les Licornes, il y a Common, il y a Cities, il y a plein d'autres structures comme ça. Et on pourra y revenir, parce qu'il y a un vrai sujet sur la question du financement, de l'accès au financement de ce modèle-là spécifique, qui est vrai. Et après, sur la question du matériel roulant, oui, Patricia disait 10 millions d'euros. Nous, on a fait, quand on a démarré RAICOP, en fait, très rapidement, la première chose, c'était de se dire, le matériel roulant, il faut que ce soit porté par un tiers. Donc, on a été voir des sociétés spécialisées, hein, des loueurs de matériel roulant, qui cherchaient à entrer sur le marché français, pardon. Et effectivement, on a même eu un devis d'Alstom pour des rames Régiolis. Et pourquoi d'ailleurs on avait choisi le Régiolis, c'était pour dérisquer, réduire les risques, puisque c'était une des rames qui était déjà utilisée par des régions. Donc dans l'hypothèse où RAICOP, le service ne fonctionnait pas, c'était des rames qui pouvaient éventuellement être remplacées. Mais cette question vraiment du financement du matériel roulant notamment, c'est le nerf de la guerre, en fait, et aujourd'hui, on voit que ça change, on voit qu'il y a des acteurs nouveaux qui rentrent sur le marché, mais c'est aussi parce que il y a des entreprises comme nous qui ont exprimé la volonté de faire des offres sur ce marché.
Justement, Céline Boivin, est-ce que vous avez l'impression que l'expérience RAICOP permet aussi, même si elle a vocation à s'achever là, peut-être de mettre la lumière sur le train et de faire mieux comprendre au grand public comment ça marche, quels sont les freins et comment on pourrait le développer? En une minute, parce qu'on va marquer une pause après.
Écoutez, j'ai envie de dire, je l'espère, puisqu'on a des enjeux très importants de neutralité carbone et de réduction de notre empreinte carbone. Donc si une telle aventure peut emmener les gens vers le train, j'y suis tout à fait favorable, en effet.
Mais et c'est le cas de votre point de vue ou bon, ça reste quelque chose d'éloigné, la manière dont concrètement
certaine.
Ça marche quoi.
Non, je suis
Patricia
pas certaine aujourd'hui.
Pérennes.
Moi je serais moins négative parce que je pense que malgré tout, le fait que cet acteur arrive de l'extérieur et pose des questions que personne n'avait jamais posées, notamment à SNCF Réseau, donc qui est l'entreprise qui possède les rails, je pense que ça fera évoluer les choses. Je donne toujours ce même exemple. En Italie, aujourd'hui il y a de la concurrence, il y a deux entreprises, il y en a une qui s'appelle Italo, mais en fait avant il y en a une autre qui s'appelait ArenaWays, pareil, qui est entrée sur le marché, bon, qui a fait rouler quelques trains, qui a assez vite fait faillite, mais son entrée a permis de faire évoluer les acteurs. Et là, je pense que de Rycop, c'est pareil. Ils sont venus voir SNCF Réseau, par exemple, ils ont demandé de faire circuler des trains la nuit, pas forcément des trains de nuit, et là, oulala, SNCF Réseau n'avait pas du tout prévu qu'il fallait ouvrir des postes d'aiguillage, donc avoir des petits messieurs qui poussent des leviers dans des...
Il faut vraiment qu'on marque une pause, on poursuit juste après Patricia Pérennes, on se retrouve dans un instant.
Je pense, donc j'agis. Anne Kerléo sur RCF.
Et on parle de l'avenir du train ce matin à l'occasion de la fin annoncée de la coopérative ferroviaire Rycop, décision qui devrait être prononcée par le tribunal de commerce de Cahors le 29 avril. Il y avait une audience hier, la décision a été mise en délibéré. On se demande ce que cette histoire nous dit de l'avenir du train en France et en Europe. Et pour nous éclairer, sont toujours avec nous Nicolas Debézieux, directeur général de Rycop, Patricia Pérennes, économiste, et Céline Boivin du groupe Aegis. Je voudrais vous lire un jeu message qui nous est parvenu d'une auditrice, Edith, qui est en Seine-et-Marne. C'est une dame qui a un certain âge, qui est en EHPAD et qui nous dit « J'ai connu un modèle de train avec des Michelines qui s'arrêtaient partout. Ensuite arrive le TGV et avec lui ses contraintes d'éloignement pour lesquelles mon amoureux devait venir me chercher plus loin à la gare du TGV. Et elle dit « Si je suis une vieille célibataire, c'est à cause de cela. » Il faut imaginer que lorsqu'on est âgé et qu'on doit prendre le bus après le train avec des bagages, ce n'est pas très pratique et plus laborieux. Ça n'a pas simplifié les voyages de proximité en privilégiant les voyages lointains, sans compter les tarifs. Alors, Céline Boivin, que vous inspire ce message d'Edith qui raconte une vie avec le train, finalement ?
On a tous une histoire avec le train, je pense, et justement ces vieilles Michelines oranges empruntées. Ce qui est important dans ce que raconte Edith, c'est ce que moi je vais appeler l'intermodalité, c'est-à-dire que au-delà du train et du trajet qu'on peut faire en train, quel que soit le mode d'ailleurs, le TER, une liaison intercité ou une liaison à grande vitesse, on a besoin d'aller jusqu'à la gare. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien adressé de comment est-ce qu'on peut faire ses premiers kilomètres sur un mode soit actif, c'est-à-dire à pied ou à vélo, ou en transport en commun ou en covoiturage.
On va aller au standard où on va accueillir une autre auditrice. Et c'est vous, Claudine, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous oui, nous appelez alors, de la région parisienne.
Oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc, j'ai perdu mon papier. Mais voilà, moi, je hurle parce que j'admire la bonne volonté de ces gens pour faire des trains transversaux sur le chemin de la France. C'est toujours Paris. Il faut toujours aller à Paris pour aller quelque part. Et là, c'est des lignes transversales qui traversent la France dans l'autre sens. Donc, c'est forcément très utile. Et moi, j'ai vu, vous savez, j'ai entendu parler de la libre... Enfin, la recherche de concurrence par l'Europe, et ça a démantelé le réseau SNCF. Et en fait, il y a des concurrents, il y a des Italiens qui possèdent des lignes en France, ou qui possèdent la moitié des lignes. C'est bien ça ? Je ne sais pas si tu peux répondre.
Non, pas exactement, mais
pas la moitié. Patricia Pérennes.
Il y a quand même d'autres. Il n'y a pas que la France qui possède les trains en France. Et qui peut s'agir de faire en France.
C'est donc, un peu c'est plus compliqué.
Moi, je hurle de douleur parce que je trouve que ce serait fort bien et qu'il faudrait faire un appel au peuple pour que quand même on se coalise pour faire démarrer ce projet.
Merci Claudine de nous avoir appelé. Nicolas de Bézieux va vous répondre dans un instant, mais peut-être Patricia Perenes pour éclairer ce que disait Claudine. Trenitalia aujourd'hui, ça représente quelle part en France? Et puis, est-ce que de votre point de vue, ça empêche le développement de projets comme Railcoop?
Non, pas du tout. Alors déjà, il faut bien séparer les rails des trains. Voilà, ce qui a été dit par l'auditrice, c'est qu'ils possédaient des rails. Non, pas du tout. Les rails sont 100% possédés par l'État. Et après, les rails sont ouverts à différentes entreprises ferroviaires. donc différents trains peuvent rouler. Trenitalia est entré sur une seule ligne, qui était à l'origine Milan-Paris et qui aujourd'hui est limitée à Paris-Lyon du fait d'un problème d'éboulement. Mais c'est, voilà, c'est même pas 1% des trains kilomètres aujourd'hui en France. C'est tout à fait marginal. Et ils sont rajoutés en plus des trains, des TGV, là on parle de la SNCF, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de TGV de rames en France et du coup, il y a de la place un peu pour tout le monde. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant de ce que dit votre auditrice, c'est cet attachement général, populaire au chemin de fer qu'on a vu. Et donc, tout le monde voilà, voudrait que des trains redémarrent. Et Railcoop, ça a eu un succès d'audience et voilà, ça a pu récolter 10 millions d'euros, comme ça a été dit très facilement, parce que les gens ont envie que ça marche. Mais la réalité, c'est que c'est compliqué. C'est que c'est pas facile financièrement. Et donc, on a tous Yaka, Faucon, faut qu'on refasse le train. Voilà. Faut savoir que le réseau ferroviaire, il était à son pic en 1937. Donc, il réduit depuis 1937. C'est pas du tout l'Union européenne ou quoi que ce soit. Voilà. Il faut vraiment regarder les chiffres. Pareil, quelque chose qui a été dit tout à l'heure sur l'État qui dit avec le rapport Spinetta qu'il faut fermer les petites lignes. C'est pas du tout ce que dit le rapport Spinetta. Il dit, faut soit en faire quelque chose et mettre vraiment des trains dessus, soit les fermer. On peut pas garder cette situation un peu bâtarde où on a un réseau qui est assez étendu et très peu de trains dessus, en particulier sur certaines lignes. Voilà. Donc vraiment, remettre les choses en place, la gare au milieu du village. Le réseau est à son pic dans les années 30. C'est pas du tout, il s'est pas contracté récemment. Aujourd'hui, le réseau n'est pas privatisé à des Italiens. Il y a quelques trains italiens qui ont l'autorisation de rouler sur des rails qui appartiennent toujours à la France et à l'État. Voilà.
Nicolas de Bézieux, que vous inspire le message de Claudine, où on sent que, enfin, elle disait qu'elle était très triste et qu'elle avait encore l'air d'avoir l'espoir qu'on puisse relancer si tout le monde se mobilisait pour Railcoop. Bon, c'est visiblement pas le cas, mais vous en avez croisé beaucoup, des citoyens comme ça attachés à votre projet et pour qui il y a une dimension citoyenne là-dedans, justement.
Ah oui, de toute façon, il y a un imaginaire du train qui est très fort, il y a une envie de faire du train qui est très forte. Alors, après, ça m'inspire deux choses. La première réflexion, c'est que souvent, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que on s'interroge sur le comment remettre des trains, etc. Et on s'interroge assez peu sur le pourquoi et quelle est la vision qu'on veut avoir du ferroviaire, en fait. Pendant 40 ans, on a eu une vision exclusive, on va dire, de dire il faut faire que du TGV. Je grossis le trait, c'est pas tout à fait vrai, il y a eu des TER, il y a eu tout ça. Et aujourd'hui, je pense que cette question de qu'est-ce qu'on veut faire du réseau, il faut en tout cas la re-questionner. Et moi, mon sentiment, c'est que ce questionnement, il n'est pas encore abouti. Et après, effectivement, on pourra s'interroger sur comment on le fait. Et statut vaut pas vertu, c'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'on a une structure 100% public que ça a fonctionné, et c'est pas parce qu'on a des structures 100% privées qu'on a la libre concurrence que ça a fonctionné. Mais il faut qu'à un moment donné, la puissance publique qui a ce patrimoine qu'est le réseau définisse effectivement cette orientation. Et il y a un deuxième sujet qui est très intéressant parce qu'on dit, on parle beaucoup d'imaginaire. Moi, l'autre jour, hier d'ailleurs, il y a un article sur Railcoop dans La Croix qui détaille un peu, qui explique pourquoi on en est là. Et il y a un des commentaires à cet article qui m'a beaucoup marqué, parce que cet article nous dit, mais finalement, un des lecteurs disait, mais finalement, pourquoi on a besoin du train? Et c'est vrai que c'est une question qui peut interpeller, parce que spontanément, on se dit, ben oui, mais c'est un mode de transport plus efficace, etc. Mais pourquoi, fondamentalement, on a besoin d'avoir ce mode de transport collectif ferroviaire sur les territoires? Et je pense que cette réflexion-là, il faut la pousser encore un peu plus loin. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, d'avoir du train sur les territoires? Quel dynamisme ça apporte? Nous, on a tenté d'y répondre, notamment à travers une étude qu'on a fait avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, hein, qui a montré qu'il y a un certain nombre de dynamiques territoriales qui sont liées à la réouverture de lignes, au redéveloppement de services ferroviaires. Mais fondamentalement, il y a cette question clé de est-ce qu'on a besoin du train? Parce que quelque part, la réponse à la transition écologique, ça pourrait être de dire, eh bien, développons les véhicules électriques voire développons des bus électriques, un réseau de bus électriques qui fonctionne. Mais pourquoi le train, finalement? Et c'est vrai que je pense qu'il y a ce travail-là encore à faire de questionnement sur la pertinence, en fait, du train dans notre système de transport.
Céline Boivin, sur cette question-là, je crois que vous êtes en lien avec les acteurs sur les territoires, justement, publics. Est-ce que c'est une question qui est portée, qui se pose? Est-ce qu'il y a des endroits où on en débat?
Alors, on a la chance d'avoir un réseau existant. Et quand on veut créer de nouvelles lignes, on sait que ça coûte très cher. Donc, utiliser le réseau existant fait sens. Quand on, pour 50 km de parcours, je vais vous donner quelques chiffres. Quand on est en intercité, donc le modèle Railcop, pour 50 km, c'est un peu moins de 270 grammes de CO2 qui sont émis. Alors qu'en voiture électrique, c'est quasiment 1000. Donc, le train a du sens pour la transition écologique, en tout cas. Et le TER émet un tout petit peu plus, puisqu'il s'arrête beaucoup plus et un peu plus au diesel qu'à l'électrique.
Mais, et donc, les collectivités, par exemple, de votre point de vue, ont déjà répondu à cette question-là du pourquoi, à travers ces chiffres-là, justement ?
Alors, les collectivités sont aussi en train d'y répondre au travers du programme sur les services express métropolitains, les SERM ou les RER métropolitains, peu importe comment on les appelle, où l'ambition, c'est de redéfinir des réseaux plutôt autour du périurbain de grandes villes pour desservir les territoires autour d'un réseau, d'un axe ferroviaire et avec d'autres genres de services, comme pourraient l'être, par exemple, des cars express ou d'autres modes.
Patricia Perennes, cette question du pourquoi qui est posée par Nicolas Debézieux, pour vous, où on en est là-dessus? Est-ce que, justement, on est au clair, ou comme il dit, est-ce qu'il y a besoin d'avancer, de réfléchir et de fixer un cap plus clair?
Oui, je pense que il y a beaucoup de réponses qui ont déjà été données, mais un train, c'est extrêmement efficace, en fait. Que ça soit, si vous mettez 50 voitures pour avoir 50 personnes qui vont à leur travail, même si elles sont électriques, vous voyez bien la place que ça va prendre sur la route. Il va falloir construire des grosses, grosses routes. Si vous avez au contraire un train, il y a beaucoup plus de monde dans moins d'espace. Voilà. Et donc, globalement, ça consomme moins de place et ça consomme aussi beaucoup moins d'énergie parce que voilà, c'est plus restreint, c'est de l'acier sur de l'acier, c'est pas des pneus sur des routes. Donc, le train est plus efficace. Bon, ça, c'est tous les arguments qui ont déjà été donnés. Mais si je voulais faire aussi d'un point de vue philosophique, moi, je suis une grande utilisatrice du train, je l'ai utilisé tous les jours pour faire une centaine de kilomètres pour aller de Bourges à Orléans, parce que j'habite aussi dans un territoire rural du centre de la France, c'est pas uniquement les SERM dont il faut parler. Il y a, voilà, d'un point de vue presque philosophique, ça permet d'avoir aussi, on rencontre des gens qu'on ne croise pas, on n'est pas dans sa petite bulle, dans sa petite voiture. Dans les trains, il y a une vraie diversité, dans les TER, hein, s'entend, ou dans les trains type que Railcop voulait faire, voilà, une vraie diversité, on rencontre d'autres personnes, je pense que ça construit des territoires, ça construit un imaginaire, voilà, que la voiture a moins. Alors ça, est-ce que ça se finance? Bon, ça suffira pas, l'argument massue pour moi, c'est la transition énergétique, mais il faut pas non plus, je pense, sous-estimer ce côté, chacun une histoire dans le train, ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà, je pense que c'est important de se battre aussi pour ça, au-delà de toute rationalité économique.
Et je peux dire un petit témoignage pour faire l'émission de ce matin. Patricia Perennes, vous habitez à Bourges. On ne pouvait pas faire de duplex pour des raisons X ou Y depuis notre studio de Bourges. Donc vous m'avez dit, moi je peux aussi aller à Tours ou Orléans en train. Et donc vous êtes avec nous ce matin depuis Orléans où vous êtes allé en train.
Illustration, évidemment, je ne serais pas venue en voiture. Très concrètement, j'ai pris le train Bourges-Orléans, comme je l'ai fait pendant plusieurs années. Voilà, et j'y ai retrouvé d'anciens collègues, on a discuté, et ça, bon, ça ne se valorise pas, je sais que ça ne justifie pas tout, mais il y a quelque chose autour de ça.
Est-ce que peut-être, justement, Céline Boivin, Nicolas Debézieux, vous avez des expériences aussi plus personnelles du train et qui racontent pourquoi il faut miser sur le train, Nicolas Debézieux?
Alors, je pense qu'on a tous des histoires bonnes ou mauvaises, mais c'est assez marrant parce qu'on a tous une relation au train. Je pense que tout le monde peut raconter des moments de rencontre. Et je rejoins ce qu'a dit Patricia. C'est vrai que on peut avoir des moments de rencontre absolument fabuleux à bord des trains ou des moments de galère aussi. Hein, il ne faut pas se voiler la face. Mais je voudrais rebondir sur ce que disait Céline aussi sur la question des RER métropolitains et de la vision. Ce qui est sous-jacent aussi, c'est une vision de l'aménagement du territoire. Quand on finance des lignes TGV, quand on finance des alors c'est les services express métropolitains, aux services régionaux, enfin j'ai oublié l'acronyme, peu importe, les RER. En fait, on a une vision d'aménagement du territoire qui est une vision de renforcement des métropoles. Il y a d'autres visions possibles, ce qui est de dire aussi une certaine égalité des territoires et une meilleure prise en compte de la réalité, parce qu'aujourd'hui, sur les territoires ruraux, il y a une extrême dépendance à la voiture, en fait. Dans l'étude de marché Drycop, hein, on a pris les déplacements, on a utilisé les données des téléphones portables pour étudier les déplacements réels en 2019, et puis on a modélisé. Le train Drycop aurait pris 0,3% à peu près des déplacements en fait sur l'axe Bordeaux-Lourdes. Donc ça reste marginal. L'immense majorité se fait en voiture. Or sur les territoires ruraux, y a pas d'alternative en fait à la voiture. Et donc c'est ce qui est sous-jacent aussi, c'est quelle est la vision de l'aménagement du territoire qu'on veut développer. Est-ce qu'on veut effectivement continuer à renforcer les métropoles? Ou est-ce qu'on veut avoir une approche de l'aménagement du territoire qui soit beaucoup plus équilibrée? Et ça, c'est un sujet politique, en fait.
Je pense, donc j'agis. Anne Kerléau sur RCF.
Et on parle du train ce matin et de son avenir en s'appuyant sur l'expérience qui va se terminer bientôt de Drycop, première coopérative ferroviaire en France. Céline Boivin, peut-être même question à vous. Est-ce que vous avez des expériences personnelles de train que vous pourriez nous partager et qui disent que oui, le train a de l'avenir, doit être l'avenir?
Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai grandi aussi dans un territoire rural et pour moi prendre le train c'était l'occasion d'aller dans une plus grande ville, découvrir des musées ou des choses que je voyais pas dans mon quotidien. Et puis je me souviendrai quand même toujours de la magie que c'était pour moi à mes 10 ans environ de prendre le TGV pour aller à la capitale et voir défiler le paysage à très grande vitesse. Mais c'est aussi, comme disait Patricia, des rencontres du quotidien. Bon, moi, j'ai la chance de prendre régulièrement le train, de pas trouver ça particulièrement stressant, mais il y a un certain nombre de personnes qu'on peut rencontrer qui vont prendre le train pour rendre visite à de la famille de façon exceptionnelle, qui ont du mal à se dire, mais attendez, comment je fais? C'est la première fois que je prends le train, je trouve pas ma place. Et puis, on lit une relation éphémère de 2 heures. Où voilà, cette personne va vous raconter pourquoi est-ce qu'elle doit rendre visite à sa fille, dans quelles conditions, etc. Donc c'est assez passionnant.
Alors bon, vous avez tous les trois des histoires de train à raconter. On sent que c'est un mode de transport qui vous est assez naturel, que vous aimez. Mais on se heurte souvent, vous le disiez Nicolas Debézieux, en milieu rural, il n'y a pas d'alternative. Et du coup, vous parliez d'imaginaire, d'imaginaire collectif. Et souvent, dans les discussions, on sent que les gens, du coup, comme il n'y a pas d'alternative pour l'instant, n'arrivent pas à se projeter et disent de toute façon c'est pas possible parce que moi en train je dois aller d'ici à là et c'est pas possible, donc il me faut une voiture électrique. Et c'est très compliqué de pouvoir échanger, de dire oui mais si on changeait différentes choses, peut-être que ça deviendrait possible pour vous. Il y a une espèce de barrière infranchissable. Donc quelle est votre réflexion là-dessus aux uns et aux autres? Comment on peut faire bouger les imaginaires pour que, même si c'est pas possible aujourd'hui, les uns et les autres réussissent à se dire mais peut-être qu'à certaines conditions, ça pourrait être possible demain, Nicolas Debézieux?
Alors, ce que vous soulignez, c'est l'un des sous-jacents du modèle de société coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on parle de la question de l'accessibilité des gares, de comment faire... Je vais vous prendre un exemple très simple. On a dans la société coopérative, on a des cercles de réflexion qui sont penchés sur différents sujets. Un des sujets, c'était l'accessibilité et le handicap. Comment faire en sorte de pouvoir accompagner les gens pour prendre le train en situation de handicap sur des territoires comme par exemple comme Guéret, comme Montluçon, sur lesquels on n'a pas la possibilité de mettre à plein temps des agents qui sont formés aux différents types de handicap qui doivent être accompagnés. Eh bien, l'une des réflexions qui a émané des sociétaires et puis d'un groupe d'étudiants qui a aussi travaillé sur ce sujet, c'était de se dire, en fait, travaillons avec les associations locales du territoire qui sont là pour accompagner ces publics en situation de handicap, pour qu'à un moment donné, ils soient formés, eux, aux questions ferroviaires, aux questions d'accompagnement, notamment dans les gares, pour que quand on a une personne avec un handicap particulier, qu'on ait finalement ces bonnes compétences sur le territoire et être au plus près des territoires. Et c'est ça derrière le modèle de CIC, c'est d'associer des acteurs locaux en fait sur des solutions qui vont permettre d'avoir un objectif commun qui est de prendre le train. C'est la même chose sur la question des mobilités locales, associer les collectivités locales sur les questions de transport urbain et tout ça. C'est derrière ce modèle, le SIC, c'est vraiment ça. C'est essayer de travailler ensemble sur un objectif commun, des acteurs qui ont des intérêts divergents mais qui poursuivent un intérêt commun. Et c'était tout le modèle qu'on a essayé de porter à travers la SIC. On avait quand même à peu près 600 sociétaires qui étaient impliqués sur les différents cercles, sur la trentaine de cercles de réflexion qu'on avait au niveau de la coopérative.
Patricia Pérennes, même question, comment on fait bouger les imaginaires pour que le train puisse devenir quelque chose d'envisageable, de souhaitable même par une majorité de la population ?
Moi, je serais plus modérée. Je dirais que déjà, il y a une grande attente vis-à-vis du train. On le voit bien dans le nombre de sociétaires qui ont adhéré. On le voit aussi dans les chiffres de fréquentation du train qui n'ont jamais été aussi hauts qu'aujourd'hui. Voilà, on a une fréquentation qui est largement au-dessus, notamment pour les TGV, les TER, de ce qu'elle était en 2019. Donc, il y a déjà ce retour vers le train. En même temps, voilà, moi, j'habite dans le Berry. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les gens ne pourront pas faire tous les déplacements en train. Moi, je serais plutôt à dire, il faut rouvrir ou plutôt qu'ouvrir, même faire une offre plus crédible sur certaines lignes pour aller à Lyon, pour aller à Nantes, pour aller à Paris, par exemple, depuis chez moi, pour que les gens qui prennent leur voiture tout le temps, se disent, là, je vais à Lyon, je vais peut-être prendre le train. Là, je vais à Nantes, je vais peut-être prendre le train. Bon, maintenant, à Paris, les gens, ils vont quasiment systématiquement en train. Bon, il y a encore des gens qui vont en voiture, mais globalement, le train est quand même connu. Donc, je pense que c'est plutôt petit à petit qu'il faut faire les choses. On parle sur des dizaines d'années. Voilà. Et pas se raconter non plus d'histoire, parce que ça peut faire des attentes irréalistes. Et je pense que c'était un peu le problème de Rycop aussi, de dire, on va couvrir la carte, de trains transversaux, et puis on fera ça dans 2 ans, quoi. Ça, c'était vraiment pas crédible. C'est plutôt de renforcer certaines dessertes et de rendre le train, voilà, attractif, parce que une fois qu'on prend le train, pour aller à son travail de temps en temps, ou qu'on a pris une fois ou deux pour aller à Paris, qu'on se rend compte c'est quand même confortable. C'est quand même pas si cher que ça. Bon, particulièrement parce que nous, on est en train express régional, en TER, et du coup on convertit des gens à faire du train plus souvent qu'ils le faisaient avant, et peu à peu, on remonte la fréquentation du train, donc plus de gens dans les trains, donc il faudra plus faire plus de trains, et on enclenche quelque chose de vertueux.
Alors vous dites pas si cher que ça, Céline Boivin, la question du coût, c'est quand même un des freins majeurs. Moi, petit témoignage personnel d'il y a 2 jours, une famille qui doit faire, donc un père avec ses 3 enfants, qui doit faire Paris-La Bretagne, Paris-Brest, et qui dit, moi avec mes 3 enfants, je ne peux pas, ça me coûte trop cher, donc je loue une voiture électrique. Ça s'est pas très bien passé, parce que la voiture électrique sur 600 km, c'est un peu compliqué. Mais, comment on répond à cette question-là, du coup, qui reste un frein majeur pour le train aujourd'hui, pour le TGV en particulier?
C'est vrai que le coût reste un frein majeur, et je le comprends. J'ai fait une petite recherche pour notre émission sur un Paris-Nice, un train de nuit, pour dans 2 week-ends. Force est de constater que le Paris-Nice, sur l'aller-retour, est à environ 300 euros, alors que sur un vol en avion depuis Paris, on est à un peu moins de 200 euros. Donc, il faut malgré tout être engagé pour privilégier le train.
Avoir les moyens.
Et avoir en effet les moyens. Après, aujourd'hui, on a un certain nombre de cartes de réduction qui existent pour favoriser l'utilisation du train. Et puis, donc ça, je sais que la lisibilité de l'offre tarifaire de SNCF est un marronnier quasiment, puisque c'est assez difficile de s'y retrouver. Mais en s'y prenant à l'avance, vraiment, on arrive à trouver des billets qui ne sont pas à des prix excessifs, y compris sur de la grande ligne. Enfin, ça, c'est l'offre et la demande, maintenant c'est les modalités de tarification un peu partout.
Et puis pour avoir cette démarche-là, de faire la recherche, d'anticiper, il faut déjà être convaincu par le train. Faut être vraiment motivé, quoi. Et c'est quand même pas le cas, même si vous dites qu'il y a un désir de train. On constate que c'est pas non plus majoritaire aujourd'hui.
Alors après, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire les coûts cachés de la voiture. Alors, j'ai pas les chiffres avec moi précisément, mais psychologiquement, on nie un certain nombre de coûts d'utilisation de la voiture individuelle, que ce soit son achat, son entretien chez le garagiste, l'assurance, faire son plein, etc. Donc, malgré tout, quand on regarde sur des trajets longue distance, on voit que le coût n'est pas si excessif que ça quand on met tous les coûts de la voiture aussi en balance.
Puisqu'on s'achemine dans quelques minutes vers la fin de l'émission, je voudrais quand même qu'on revienne à Rycop et à la fin annoncée de l'aventure, Nicolas Debézieux. Du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va être fait de tout ça? C'est-à-dire à la fois l'expérience que vous avez acquise, bah vous, peut-être personnellement, mais plus collectivement, vous allez en faire quoi? Et puis qu'est-ce qui va se passer aussi pour les sociétaires qui avaient pris des parts dans Rycop?
Alors sur les parts dans Rycop, c'est assez simple, hein, c'est qu'à partir du moment où la personne disparaît, les parts sont perdues. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une vente des actifs de l'entreprise. Mais aujourd'hui, la vente des actifs de l'entreprise, il y a eu beaucoup d'actifs immatériels, hein, il y a eu beaucoup de jus de cerveau sur la constitution du CSU. Donc la vente des actifs va pas couvrir effectivement les montants levés. Après sur la suite, la personne morale, l'entreprise Rycop disparaît. Je pense pas que le projet disparaisse en tant que tel. Clairement, on a échangé avec les sociétaires encore samedi dernier. On a eu un webinaire. Il y a eu une forte mobilisation des sociétaires également il y a un mois sur un grand défi, c'est-à-dire une marche Bordeaux-Lyon. Ce qu'on sent, c'est qu'aujourd'hui, il y a une communauté qui est engagée, qui a envie d'avoir ce nouveau modèle ferroviaire. Qui a produit énormément de choses au sein de la coopérative. Tout à l'heure, je vous ai cité le cercle handicap, mais il y a aussi le cercle sur le vélo, sur l'environnement, sur l'imaginaire, la vie en train, l'imaginaire du train. Donc il y a énormément de choses. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a une volonté de poursuivre cet engagement. Sous quelle forme, ça reste à définir. Mais en tout cas, le projet en tant que tel et l'idée qui est portée par ce projet, je pense qu'elle n'est pas morte et au contraire, elle va continuer.
Pour terminer, je voudrais que chacun, en moins d'une minute, parce qu'il nous reste moins de trois minutes, vous nous disiez comment, à votre avis, nos auditeurs, auditrices, qui sont aussi des citoyens, citoyennes, et on l'a entendu, dont certains ont vraiment envie de participer à la promotion du train et au développement du train en France, comment ils peuvent s'y prendre chacun, basiquement, personnellement, Céline Boivin?
Je pense que tout simplement, vous pouvez déjà tester, prendre le train sur un trajet du quotidien ou un trajet un peu exceptionnel pour voir comment c'est et lutter un peu contre les biais psychologiques qu'on peut tous avoir quand on ne le prend pas régulièrement.
Se mettre au train, commencer petit et puis on aura envie d'aller plus loin. Patricia Pérennes, vous, quel conseil ou quelle piste vous donneriez ?
Non, moi je vais dire exactement la même chose. La première chose, c'est de prendre le train avec ses enfants. Dire le train, c'est important. C'est une histoire de développement durable, mais aussi une histoire de façon dont on voit la vie. Quoi, on prend le train parce qu'on croit au collectif. On n'est pas tous avec sa petite voiture, son petit 4x4. Voilà, c'est vraiment prenez le train, défendez le train.
Et puis Nicolas Debézieux, même question.
Je vais pas être très original, je vais rejoindre exactement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire je pense qu'il faut y goûter. Moi j'étais surpris en fait qu'il y a un certain nombre de jeunes, notamment dans les territoires ruraux, en fait, qui n'ont jamais pris le train, parce qu'ils n'ont jamais eu la possibilité de le faire. Et je pense que c'est important, voilà, on parle beaucoup d'imaginaire du train, je pense que c'est aussi important de redonner ce goût et cet imaginaire du train aux jeunes générations.
Allez, je termine par la lecture d'un message d'une auditrice, Françoise en Vendée, qui nous dit « Je ne comprends pas que le train ne remplace pas les camions. » C'est vrai qu'on n'a pas parlé du fret, on le fera une autre fois. Et elle ajoute « J'ai toujours apprécié le train, sa convivialité, le plaisir d'y lire. Je suis effarée par les bouchons de voitures par ailleurs. » Merci Françoise de nous avoir écrit. C'est la fin de l'émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Céline Boivin, Patricia Pérennes et Nicolas Debézieux. Merci à Catherine Ségouffin au standard, à Antoine Pico à la technique, également à Léo Toscane et à l'équipe d'RCF Orléans qui nous a permis le duplex avec vous, Patricia Pérennes. Et puis merci aussi à l'équipe de Radio Notre-Dame. On se retrouve bientôt. Vous avez rendez-vous maintenant avec Melchior Gormand, une émission sur le covoiturage. C'est une rediffusion, donc pas de standard ouvert ce matin. Pardon. Vous retrouverez Melchior en direct demain. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée à l'écoute d'RCF. Merci.